Alors, ça va être difficile de tout dire. En revenant sur les besoins fondamentaux de la personne, donc des besoins fondamentaux de la personne intérieure, c'est tellement important que je vais attendre. Et puis après, on a deux autres questions. Est-ce que vous connaissez la minute du matin et la minute du soir? Ah. Eh bien, disons que non, ce n'est pas une minute de prière. C'est prendre votre conjoint une minute. Attendez, une minute pour dire à votre conjoint que vous l'aimez, ça va? C'est pas trop dur la journée? Ça va. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais là, des fois. Mais si j'allais dire une minute du matin et une minute du soir. En fait, normalement, ça devrait se faire, quoi. C'est pas trop. Mais c'est magique. C'est magique dans le sens où. Alors, il faut que je mette un petit peu des garde-fous, là. C'est quand, messieurs ou mesdames, vous prenez votre conjoint le matin dans vos bras pendant une minute. Pas plus, hein. Pas plus d'une minute. Vous prenez votre conjoint dans les bras. Et vous pouvez lui dire que vous l'aimez. Qu'est-ce que vous êtes en train de passer comme message? Vous faites un câlin, vous pouvez l'embrasser, vous le caressez, la caresser. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de passer comme message? Que vous l'aimez, que la personne, qu'il ou elle est en sécurité, vous prenez du temps pour elle, de l'attention, vous l'acceptez. Quoi encore? Et vous la reconnaissez. En fin de compte, ce temps-là, une minute, va remonter le niveau du réservoir affectif de façon extraordinaire. Ma femme, quand je pars le matin et qu'elle me passe ses mains dans mes cheveux et qu'elle me dise « Bertrand, souviens-toi, je t'aime », la plus grosse tuile pourrait me tomber sur la tête, je suis aimé de ma femme. C'est extraordinaire la puissance de la puissance de l'amour, en fait, déclaré. Et une minute le soir, voilà. Bon, plus si affinité, ça c'est, vous voyez ça. Mais évidemment, messieurs, si vous avez ce câlin d'une minute le matin juste parce que vous avez des vues le soir ou dans la journée, des vues particulières, votre femme, sachez que votre femme a des antennes bien déployées et elle va se rendre compte de votre stratagème. Et ça ne va pas marcher, ça. Il faut que ça soit un câlin non orienté sexuellement. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais je suis étonné. L'autre jour, ma femme descend, il était 6 heures du matin, et je lui dis, mais va chérie, tu ne travailles pas avant 9 heures, tu aurais pu dormir encore. Et je dis, mais pourquoi tu ne fais pas un peu, tu ne dors pas le matin? Elle me dit, non, je voulais ma minute du matin. Et vous savez, c'est quelque chose qui est très important et qui va vraiment monter le niveau de réservoir émotionnel. À un moment donné, pour nous, on s'était dit, on va passer un quart d'heure tous les jours à prendre une tasse de thé en dehors du repas, tout ça quand on arrive du travail, et on va prendre un quart d'heure, les enfants ne peuvent pas nous déranger. Et ce quart d'heure tous les jours était extraordinaire. C'est tout ce qu'on est en train de dire à l'autre, tu es suffisamment importante ou important ou importante pour moi que je prenne ce temps-là avec toi. Et c'est ça qui participe à élever le niveau du réservoir émotionnel. La même chose pour les enfants. Enfin, vous voyez ce que je suis en train de dire et vous comprenez le concept et l'idée que j'ai développée là. Alors, il y a une dame tout à l'heure qui avait une question, la première dame. C'était oui, allez-y. Ah oui, c'est ça. Oui. Oui. Eh ben, ça veut dire que ils savent qu'il y a une faille. Non, mais attendez, ils vont tous essayer. Ils essayent tous, et ils ont vu que ça marche chez vous, quelque part. Donc, ils profitent. Je vous ai dit que nos enfants sont très compétents. Et donc, ils vont chercher, admettons, c'est le garçon, c'est le dernier, c'est le chéri de sa maman, juste ou pas? Deux filles, d'accord. Alors, non, ils vont aller là, si ça ne marche pas, ils vont aller là, c'est les petites chéries de papa, hein? Et qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Bah, tu vois, tu le sais. Et madame, quelle est la question que vous devriez poser, vous? Non. Qu'est-ce que vous devriez poser la question aux filles? Ah ben voilà. Et là, pardon? Ok, la deuxième chose que vous pouvez faire, parce qu'il n'y a aucune précipitation à avoir. Eux, ils disent, il faut prendre une décision maintenant. Mais il n'y a pas de précipitation à avoir. Vous avez toujours à le dire, vous pouvez toujours dire, je vais en parler à papa et je t'en reparle. Avant de dire oui ou non, je vais voir ce que papa en pense. Mais arrangez-vous ensemble, hein? Arrangez-vous ensemble. Moi, je vous prescris comme thérapie. Et je vous prescris à tous, vous, autant que vous êtes couple, de sortir 2 heures par semaine, juste vous deux. Alors, quand il y a des petits-enfants, c'est difficile pour un babysitter et tout ça. Mais sortez, vous allez voir que vous allez discuter de ces choses-là et le lien va revenir. Et vous allez décider. Et mais les bonbons, vous pouvez dire, vous pouvez en parler. C'est un sujet où vous pouvez en parler et vous pouvez vous mettre d'accord ensemble. Moi, je crois qu'il n'y a pas de sujet sur lequel vous pouvez pas vous mettre d'accord avant d'en parler à vos enfants. Souvent, les enfants mettent la pression aux parents en disant, il faut une décision maintenant. Mais ce n'est pas du tout la peine d'accepter ça. La pression, vous pouvez dire, je vais en parler à papa et papa peut dire, je vais en parler à maman et on va vous en parler ensemble. Et là, ça règle beaucoup de problèmes déjà. Parce que là, il dit, ce qu'il ne faut pas qu'ils changent pour eux, c'est, il faudrait l'accord. S'ils arrivent à ce que vous ne soyez jamais d'accord, pour eux, c'est gagné, quoi. Donc, si vous vous mettez d'accord, alors là, ils ont perdu, quoi. Et c'est ça qui, en fin de compte, ça va leur donner aussi une grande leçon pour plus tard. Vous savez que nous sommes en train d'élever nos enfants à être père et mère. Et de la manière dont on fait, ils vont être. Probablement. Ok, il y avait une deuxième question, et la question c'était, vous parlez de l'acceptation. Jusqu'où accepter? Alors moi, c'est quand je dis accepter, je pensais à l'acceptation de la personne, l'acceptation du jeune, de l'enfant, du garçon ou de la fille. Vous savez, j'ai vu des enfants, elle était médecin et lui, il était chercheur à l'université de Grenoble et des gens très intelligents, voilà, ils ont un enfant, un garçon, qui est moyennement intelligent, très moyennement intelligent. Grande déception. La petite fille, la deuxième, crève les plafonds. Mais le premier, très moyennement intelligent. La déception du père. Parce que la valeur dans cette famille, c'est quoi? C'est le QI, le quotient intellectuel, les diplômes et tout ça, quoi. Et donc, ce sont des chrétiens, donc ils comprennent les choses. Ils disent, mais non, il faut que mettre les choses à leur place et la valeur d'enfant de Dieu, ce n'est pas ça, etc., etc. Bon, mais quand même, accepter cet enfant tel qu'il est, avec ses limites, ce n'est pas si facile. Ok, donc je parlais des limitations de l'acceptation de l'enfant en tant que personne. Et donc, le frère vient me poser la question et me dire, mais est-ce qu'on doit tout accepter d'un enfant ? Alors après, il y a l'acceptation des actes. C'est encore différent. Et là, on va poser un cadre. On va poser un cadre. Et je voudrais demander à quelqu'un de venir. Je mets deux enfants ici. Allez, deux filles, ou une fille, un garçon. Ils sont dans le cadre. Allez, quelqu'un va... Allez, viens. Et oui. Et toi, tu vas... Où est-ce que tu te mets ? Tu es le père. Et tu te mets où dans le... Tu te mets où ? Là, non. Là, c'est un autre dessin. C'est ici, là. Tu mets un cadre, c'est-à-dire tu définis un cadre pour tes enfants. Tu rentres à 5 heures, tu rentres après l'école, tu te laves les mains pour venir manger, enfin, toutes sortes de choses, quoi. Et toi, tu te mets où ? Très bien. Il se place en dehors du cadre. C'est lui qui pose le cadre. Le cadre, quand je parle de cadre, hein, t'as eu chaud, c'est ça ? Non, yeah. Bravo. Mais tous les parents ne savent pas faire ça. Il y a des parents qui se mettent dans le cadre. Ce qui n'est pas juste. On ne peut pas poser un cadre et être dans le cadre. Un cadre, à quoi sert un cadre ? Un cadre sert à définir des frontières. Tu peux aller jusque-là, mais pas plus loin que là. Un cadre va donner de la sécurité aux enfants. On est d'accord avec ça ? Donc, poser un cadre à vos enfants, ça leur donne de la sécurité. Ne pas le faire, c'est criminel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le cadre, ils ont toute la liberté d'agir, mais pas plus loin. Alors, on a des enfants qui sont rebelles, qui ont des personnalités. Eux, ils disent, le cadre, ça sert à le dépasser. Et c'est là où on doit être fort sur le cadre. Et c'est là où on doit être ensemble sur le cadre. Et vous posez ensemble le cadre à vos enfants. C'est ça, vous voyez ? Vous posez le cadre ensemble à vos enfants. Peut-être c'est papa qui va dire, maintenant c'est comme ça, ça va être. Mais quand papa n'est pas là, c'est la maman qui rappelle la loi. Mais sinon, c'est papa qui dit la loi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc, messieurs, vous ne pouvez pas laisser l'éducation de vos enfants à votre femme. Ça serait être démissionnaire. Vous devez rappeler la loi, mais vous le faites ensemble. Sinon, ils vont faire comme là, ils vont aller jongler une fois chez l'un, une fois chez l'autre. OK. Un cadre, ça sert à quoi ? Ça sert à définir les relations. Si vous vous mettiez dans le cadre, ça voudrait dire quoi ? Vous voulez être copain avec vos enfants. Et être copain avec vos enfants, ça ne va pas. Vous êtes parents et vous êtes à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que vous êtes éloigné de vos enfants ? Non. Mais vous n'êtes pas les copains de vos enfants. Et on rencontre aujourd'hui beaucoup de familles où ils veulent tellement la relation, la gentillesse, enfin une vraie soupe, que, et on va le voir dans une seconde là, ils ont un style d'éducation où ils sont les copains de leurs enfants. Quand les enfants sont adolescents, et on appelle ces familles les familles pétards, c'est les parents qui vont fumer des joints avec leurs ados, quoi. Et si les parents sont là, les enfants sont dans la confusion. Il y a une confusion des genres. Où sont les parents qui doivent mettre des limites, quoi, vous voyez ? Donc, il y a deux choses. Il y a l'acceptation des enfants, mais après, il y a les limites à poser et les enfants peuvent être dans les limites imposées. Après, il faut que nous puissions grandir avec les enfants. C'est-à-dire que les limites que vous posez aux enfants de 2 ans, quand ils ont 7 ans, ça ne va plus, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il ne faut pas oublier que nous aussi, on doit grandir avec nos enfants. Voilà. Donc ça... Et je ne sais pas si on va avoir tout le temps de... de voir ce que j'avais prévu, mais on va faire le maximum. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Alors, ce que j'avais comme plan, c'est celui-là, nous parler de responsabilité de parents, éduquer avec amour, la pratique de la discipline, comment on peut, vous vous rappelez ce verset, parents ou pères, n'héritez pas vos enfants, ou bien ne poussez pas les enfants à la colère, et puis finalement, la pratique du pardon. Mais on va d'abord parler, si vous voulez, de nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. L'idée là, c'est nous ne pouvons pas nous occuper de nos propres besoins, de nos propres satisfactions et laisser nos enfants grandir tout seuls. La relation, elle se construit. Et ça, c'est en passant du temps, construire, rétablir, réinventer une relation vraie. C'est quelque chose qui va être construite sur du long terme et avec la vérité. C'est-à-dire, quand ça va, on le dit, quand ça ne va pas, on le dit aussi. Et il faut ces temps d'échange. Mais, encore une fois, ça, il faut du temps pour construire une relation. Ça ne les empêchera pas de faire leurs expériences. Mais ça vous permettra de mieux les avertir. Nous, on dit, il y a un axiome de la communication qui est très important. Aucun contenu ne peut être donné si la relation n'est pas satisfaisante. Je peux vous prendre un exemple. Vous vous disputez de temps en temps. Allez, soyez sincères. Ça arrive, normal. C'est une famille normale. Si un conflit n'est pas résolu et que vous avez un sujet dont vous devez parler, je ne sais pas, payer une facture, mais vous avez un conflit qui n'est pas résolu. Toi, tu viens voir ta femme et tu vas dire, mais on doit discuter comment il faut faire pour qu'on paye la facture. Et toi, tu vas réagir comment? Probablement. Le contexte, c'est que le conflit que vous avez eu, il n'y a pas longtemps, même si ça fait un bout de temps, les dames ont une mémoire assez développée, et plus que les hommes, en tout cas, dans ce niveau-là, au ce niveau-là. Et lui, il vient comme si rien n'était, et il parle de quelque chose qui est important pour lui. Tu vas dire quoi? Ah ouais, quand même. Ah, mais quand même, tu vois. En fait, ce que je suis en train de dire, aucun contenu ne peut passer si la relation entre deux personnes n'est pas satisfaisante. Autrement dit, si j'ai une relation satisfaisante avec ma femme, si ça se passe bien, si voilà, ses besoins de relation sont satisfaits et les miens aussi, on est content d'être ensemble et tout, je peux lui dire beaucoup de choses, le contenu va passer. Mais s'il y a un conflit entre nous, il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse et que j'ai besoin d'avoir son avis ou son acquiescement, elle va dire, non, pas, impossible. Elle va être bloquée parce que la relation n'est pas satisfaisante. Et tout va être fait pour que la relation soit de nouveau satisfaisante. Vous avez saisi ce que je suis en train de dire? Et c'est un concept qui est valable dans toutes les relations humaines. Et vous pouvez enseigner vos enfants dans la mesure où la relation est vraie et s'il elle est sincère et satisfaisante pour lui, et pour votre enfant et pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous ne parlez jamais à votre enfant juste pour l'enseigner sur des choses importantes pour vous, ça ne va pas passer. Vous avez suivi ça? Ok, d'accord. Remplir le réservoir émotionnel de vos enfants, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas en reparler. Comment est-ce que vous faites pour chacun de vos enfants? Vous vous rappelez les différents besoins fondamentaux, le réservoir émotionnel? Vos enfants ont besoin de cela et que ça soit rempli. Développez l'esprit critique de vos enfants face aux dangers potentiels. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qui doit parler de sexualité en premier lieu à ses enfants? Les parents. Même si vous, vous n'avez pas eu de parents qui vous en ont parlé. C'est très important, c'est très important. S'ils ne le font pas, si vous ne le faites pas, ils iront chercher les informations ailleurs. Pas forcément avec les valeurs que vous voudriez. Ils vont chercher ça sur MTV, sur des sites porno, et nous, c'est un grand, grand problème déjà pour les enfants de 10 ans, quoi, qui surfent sur Internet. Notre président Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, il parlait des orphelins de 16 heures. Ce sont les enfants qui viennent de l'école et qu'il n'y a personne à la maison parce que papa et maman travaillent et eux, ils se retrouvent tout seuls et ils regardent n'importe quoi. Les orphelins de 16 heures et se nourrissent de n'importe quoi. Et nous, on doit vraiment... Enfin, moi, je suis assez en colère, je vais dire en colère, parce qu'on est en train d'abîmer nos enfants. Nos enfants, le cerveau de nos enfants, il est physiologiquement à maturation physiologique à 12 ans, mais pas psychologique. Et les images qu'ils regardent sont imprégnées dans ces cerveaux-là qui sont malléables et c'est insupportable. Et ça fait des dommages. Ils ne peuvent pas regarder, les garçons ne peuvent plus regarder une femme normalement. Et ils ont des problèmes de relation. Et tout ce qui leur rapport à la sexualité est cassé parce que ils prennent les femmes comme des objets. Et les filles aussi, de différemment, mais quand même. Et donc, c'est à nous d'enseigner sur les drogues. Nous, nous savons qu'à 12 ans, quand ils sortent de l'école primaire pour aller ce qu'on appelle au collège, c'est le collège chez nous, je ne sais pas comment vous appelez, hein? J'ai pas entendu. Le secondaire, voilà, on divise le secondaire en deux. C'est d'abord le collège et ensuite le lycée, après le bac, hein? Bon, mais nous, nous savons bien que les enfants, quand ils vont au secondaire, de primaire au secondaire, on va leur proposer un joint. De toute façon, on va leur proposer un joint. Qui doit leur parler de drogue? En France, avec un fils, un de mes fils et ma femme, nous avons monté un programme de prévention primaire pour les parents. Comment parler de drogue à nos enfants avant même qu'ils soient en contact avec le produit, quoi. Et donc, moi, je pense qu'il faut absolument qu'on soit clair et qu'on parle à nos enfants. Et vous savez, nos enfants nous écoutent. Nous sommes les héros de nos enfants jusqu'à quel âge? 12 ans, 13 ans. Après, il y a d'autres voix qui viennent. Après, c'est normal. Ils sont loyaux vis-à-vis des parents jusqu'à 12, 13 ans. Ensuite, la loyauté va shifter, va aller va se déplacer vers les copains. Et c'est normal, c'est dans le processus d'autonomie. Sauf que vous n'avez plus maintenant l'attention de vos enfants à 100%, quoi. Et donc, c'est avant qu'il faut donner ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous écoutent plus, hein. C'est pas ça que je veux dire. Être prêt à agir, et oui, il faut mouiller sa chemise. À un moment donné, il faut mouiller sa chemise. Aller voir les voisins, discuter et aller voir peut-être les autorités de l'école. Enfin, il faut bouger à un moment donné. Et finalement aussi, ne pas rester seul. Parler avec d'autres parents. Et moi, je dirais, mais l'Église est là. Et elle est là pour, la famille de Dieu est là pour qu'on puisse se mettre à genoux et supplier Dieu ensemble pour nos propres enfants, sans qu'il y ait d'un jugement particulier. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de parents parfaits, pas de situation familiale idéale. L'important, c'est de votre envie de créer et de développer une vraie relation de confiance. Alors, on va parler, si vous voulez, de quatre types d'éducation que nous pouvons trouver, et vous allez essayer de choisir celle que vous voulez, hein, entre l'idéal, le type indulgent, indifférent ou autoritaire. Vous voyez tout cela ? Tu vois aussi ? Vous voyez là ? Alors, parlons de l'éducation, une éducation autoritaire. Ou, si vous voulez, les parents, le père ou la mère, ça dépend, et une autorité, et met un cadre qui est élevé comme un mur qui va jusqu'au ciel, comme le mur de Jéricho, si vous voulez. Et puis, en fin de compte, beaucoup de limites, beaucoup de règles, souvent très sévères et irréalistes. Et c'est là où je dis, nous devons grandir avec nos enfants. Je fais aucunement confiance à un enfant de 2 ans. Aucunement confiance. Vous aussi ? J'espère. Je veux, comme notre petit-fils qui habite à côté de chez nous, ou vient chez nous, et quand il avait 2 ans, je voulais toujours savoir où il était. Bon, pourquoi ? Parce que je ne fais pas confiance. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ça veut dire simplement que Mais maintenant, il a 7 ans. Eh bien, les règles ont changé, les limites ont changé. Et vous voyez. Ici, dans ce style d'éducation, là, les limites sont tellement, tellement rigides et on ne peut pas les bouger. Très sévères. Et le mur est très haut. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Alors, une des caractéristiques de cette éducation, peu ou pas d'amour, en tout cas manifesté. Voilà, ce qui compte, c'est les règles. Et qu'on obéisse aux parents, on obéisse à papa, on ne parle pas à table. Non, vous connaissez ça un petit peu, non ? Enfin, c'est peut-être la vieille génération, mais ça existe encore. Hein ? Et en tout cas, l'enfant ne perçoit pas d'amour exprimé. Et l'amour est conditionné aux règles. Si tu m'obéis, t'es un bon enfant. Si tu désobéis, t'es pas même pas mon enfant. Vous comprenez ça ? C'est l'amour conditionnel. C'est très important de savoir qu'il est conditionné au respect des règles. La conséquence, le mur est trop haut, pas possible de le fracasser. Comment est-ce qu'on pourrait s'échapper d'une telle forteresse ? La drogue peut être une possibilité, mais quoi d'autre encore ? Comment s'échapper ? Vous êtes avec moi là ? Comment s'échapper ? Fuguer ? Partir de la maison de bonheur ? Quoi encore ? Il n'y a pas que ça. Avoir un copain, une copine à l'extérieur, rappelez-vous, le virtuel, Internet, les jeux vidéo. Alors là, on ne sort plus. Hein. Ah, là, les parents sont très contents. Vous savez, nos enfants, depuis qu'ils ont les jeux vidéo, ils sont tranquilles dans leur chambre. Eh ben ouais. Je ne sais pas si c'est très positif, quoi. Mais vous voyez, donc ils vont s'évader dans le virtuel, soit dans les films ou soit dans les jeux vidéo ou dans la drogue. C'est un moyen de s'échapper. Le style indulgent, qu'est-ce qu'il pourrait être ? Voilà. Alors là, vous voyez le mur ? Le parent dit, oh, moi, je veux donner tout l'amour que j'ai à mes enfants. Et les parents ne mettent pas de cadre. Parce qu'ils estiment que l'amour est beaucoup plus important. Et l'idée, c'est d'avoir envie d'être complaisant ou considéré comme un ami par les enfants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, être copain-copain. On a peur de blesser ou de punir. Chez nous, ce sont les enfants de 68 ans. Vous comprenez quand je dis les 68 ans ? Vous savez qu'en 1968, il y a eu la révolution culturelle chez nous, où il était interdit d'interdire ce qu'on appelle mai 68. Et donc, d'une éducation un petit peu rigide, on est passé par-dessus bord et il était interdit d'interdire. Et donc, on a toute une génération de jeunes couples de 35 ans, dont les parents étaient des 68ards, ils avaient 20 ans à l'époque, qui n'ont mis aucune limite à leurs enfants. Et les jeunes parents maintenant, ça c'est la demande que nous avons le plus, dites-nous comment mettre des limites à nos enfants. Parce qu'ils confondent limite et amour. Ils pensent que mettre des limites, c'est ne pas aimer l'enfant. Or, vous pouvez tout à fait mettre des limites et exiger le respect des limites et avoir des très bonnes relations avec vos enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous pouvez imposer un cadre à vos enfants et vous devez le faire. Et en même temps, vous pouvez avoir une excellente relation avec vos enfants. Oui, madame? Oui, oui, c'est ça, docteur Spott. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, on a peur de blesser et de punir, on confond l'amour et les limites, et pour conséquence, les enfants risquent de ne pas apprendre à se fixer leurs propres limites, ils sont sous-protégés, ils sont naïfs, sont des victimes faciles pour les manipulateurs de toutes sortes, soit les dealers, soit les sectes. Ah oui, parce qu'ils vont rechercher les limites. On ne leur a pas mis. Ils sont dans une grande insécurité. Et dès qu'il y a quelqu'un qui, maintenant, vient leur donner un peu de sécurité, ils vont directement, à tort et à raison, se jeter dans leurs bras. Le style indifférent. Alors là, les parents sont centrés sur leurs propres besoins et leurs propres préoccupations. Alors, tu viens, toi ? Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Les parents sont centrés sur leurs propres besoins, négligent ceux des enfants. La seule règle chez eux, il n'y a pas de règle. On mange dans le frigidaire quand on veut, on va au lit quand on veut, on ne mange pas ensemble. Ce que je crois et ce que je préconise, d'avoir que les familles aient au moins 5 repas par semaine ensemble à table. C'est possible pour vous? 5 repas, ça fait un repas, enfin, c'est 5 repas par semaine. Est-ce que c'est possible? Ah ben attendez, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas si évident pour tout le monde. Mais au moins avoir 5 repas par semaine ensemble, à table, sans télé. C'est pas toujours évident, hein? Sans télé. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a peu d'amour. Les règles sont pas définies et pas mises en application. Évidemment, elles ne sont pas définies. Et les conséquences, c'est ça. C'est ce type d'éducation produit des enfants insécurisés, méfiants envers les relations avec autrui. Ils peuvent, c'est pas tous, ils peuvent adopter une conduite à risque dont la consommation de drogue, évidemment, est une façon pour ces enfants d'attirer sur eux une attention qui ne leur est pas donnée. Ce que les enfants veulent. Quand vous mettez un cadre, vous faites attention aux enfants. Vous leur dites, tu es important pour moi et parce que je t'aime, pas plus loin que ça. Alors qu'eux rechignent contre le cadre. Cette bonne guerre, ils vont rechigner contre le cadre. Mais ne vous découragez pas, surtout à l'adolescence. Vous, les pères, soyez conscients des valeurs que vous avez données à vos enfants. À l'adolescence, vous allez être remis en cause. Il faut vous préparer à être comme un punching ball. Et ils vont vous taper dessus simplement pour voir si vos valeurs sont bien ancrées. C'est ça. Et puis finalement, le style idéal, des limites et des règles, mais qui sont réalistes, qui sont adaptées aussi, appropriées à l'âge, appliquées avec amour et renégociées au fur et à mesure que l'enfant grandit. C'est ce que je vous appelais, nous aussi, en tant que parents, nous devons grandir avec nos enfants. En fin de compte, il y a de l'amour, L'amour est inconditionnel, c'est-à-dire que je t'aime parce que tu es et non pas parce que tu ramènes des bonnes notes, dissocié du respect des règles, exprimé dans un langage que l'enfant comprend. Voilà. Alors, maintenant, je dois faire des choix, parce que j'ai beaucoup de choses encore. Je voudrais vous parler pour quelles raisons, nous, parents, nous devons poser des limites à nos enfants. Et je vais vous parler, on pourrait dire, parce que la parole de Dieu nous le demande. Oui, ben d'accord. Et encore. Ça devrait être suffisant. Mais je vais vous essayer de vous montrer que ce que nous voulons pour nos enfants, c'est décrocher la lune, quel que soit comment vous le définissez cela. Décrocher la lune, c'est que nos enfants trouvent une certaine autonomie, un bonheur de vivre. Alors, on pourrait définir un petit peu le bonheur pour nos enfants, ça serait, pour moi, le bonheur pour mes enfants, ça serait de... Oui, mais c'est quoi être heureux? Qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Pour moi, le bonheur pour mes enfants, c'est fonder une famille. Hein? C'est trop vague. Ça, c'est le bonheur, c'est épanoui. Mais en quoi? Hein? Dans leur carrière, qu'ils réussissent professionnellement? Dans les relations avec les autres, épanoui en quoi, frère? Dans leur relation avec Dieu, tout à fait. Quoi encore? Là, on est en train de parler de l'objectif donc, quand j'avais parlé de la flèche. Savoir prendre des bonnes décisions, servir les autres, tout ça. On pourrait dire que c'est le bonheur. D'accord. Je vais enlever ça, j'ai l'impression que ça fait une auréole, mais bon. Nos enfants, je vais les typifier par une fusée. La fusée de Tintin, vous vous rappelez? Non, ça c'est notre génération. Mais une fusée, voilà, avec trois moteurs. Trois moteurs, la fusée. Chaque enfant est né avec ses trois moteurs. Un moteur, c'est le moteur du plaisir. Le plaisir est donné par Dieu. J'ai aucun doute de cela. Et le plaisir, le plus grand plaisir qu'une personne peut avoir, c'est dans la relation. Ne vous trompez pas. Et si vous voulez, c'est une image, la relation qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir entre conjoints ou avec des enfants, enfin les relations humaines, c'est une image, une faible image du plaisir que nous pouvons avoir dans la relation à Dieu. Psaume 16, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours, ô Dieu. La relation à Dieu est l'immense plaisir qu'un homme ou une femme peut trouver. Ok. On est né avec le moteur de plaisir. Sans plaisir, on ne peut pas vivre. On est né aussi avec un autre moteur qu'on appelle l'économie. Un moteur d'économie, c'est-à-dire que je veux un maximum de plaisir pour un minimum d'effort. Un bébé, son grand plaisir, c'est de téter. Et il va brailler jusqu'au moment où la maman lui donne le biberon ou le sein. Et là, il est très, très content. Et il a trouvé que pleurer, ça fait bouger la maman très vite. Vous voyez, un peu d'effort pour beaucoup de plaisir. Mais peu d'effort, le minimum. Un enfant de 2 ans, il va chercher partout. Lui, c'est un grand plaisir, c'est la curiosité. Donc, il va grimper partout, il va regarder par la fenêtre de l'immeuble, il va mettre ses mains partout, c'est même dangereux, quoi. Beaucoup de plaisir pour satisfaire son plaisir de curiosité. Tout ce qu'il a à sa portée, c'est beaucoup de plaisir pour l'économie. On pourrait continuer comme ça, et nous ne sommes pas indemnes de ça. Il y a un troisième moteur, ce qu'on appelle le moteur de réalité. Moteur de réalité, c'est si je crache en l'air, ça me retombe dessus. Moteur de réalité, si je fais telle chose, il va y avoir des conséquences. Si je prends une voiture qui n'a pas d'assurance et que j'ai un accident, je vais avoir des problèmes. Si je vole dans un magasin, je vais avoir des problèmes. Si je prends de la drogue, je vais avoir des problèmes. Il y a des conséquences à mes actes. Et ces trois moteurs sont built-in dans chacun d'entre nous. Ils sont là, ils sont présents à la naissance. Sauf qu'il y a un moteur qui n'est pas en marche. C'est lequel ? Le moteur de réalité. Alors ici, c'est économie, on va dire. Le deuxième, c'est plaisir. Et le troisième, réalité. Nos enfants sont nés avec ça, nous sommes nés avec ça. Les deux moteurs sont en fonctionnement, le troisième ne fonctionne pas. Il est là, potentiellement il est là. Quand est-ce qu'il s'allume ? Quel âge ? Alors, il faut modérer, selon si c'est une fille ou un garçon, parce que les filles, oui mesdames, vous êtes plus matures, plus avancées souvent, jusqu'à un certain point, mais disons que petite, vous êtes souvent plus avancées. Et puis, si la place de l'enfant dans la famille, aussi sa personnalité, bon, c'est multifactoriel. Quand est-ce que ça commence ? On dit en général, quel âge ? Hein ? 1 an et demi, 2 ans ? Hein ? 3, 4 ans ? Qui dit mieux ? 5 ? Quand on a beaucoup fumé, c'est ça, oui. Mais en fin de compte, on parle de 11, 12 ans. Alors, bien sûr, les enfants apprennent aussi déjà avant. Mais en général, on dit que le moteur de réalité démarre vers 11, 12 ans. Pour être en pleine puissance, quand ? 16. 1 ? 25, c'est Doug qui a raison. Entre 23 et 24 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que on veut qu'ils décrochent la lune, on les dirige vers un objectif. Et ils n'ont que deux moteurs. Et en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que s'ils sont livrés à eux-mêmes, ils vont louper la cible. Je vous raconte une histoire. Je reçois un coup de téléphone d'une dame à mon bureau un lundi, en disant, monsieur, j'ai besoin de vous voir. Voilà ce qui m'arrive. Je suis divorcé. Mes deux filles, 17 et 14 ans, habitent chez leur père. Mais le week-end, viennent chez moi. Vendredi soir, ma fille qui a 17 ans, qui est en terminale S, donc la classe la plus élevée, a demandé si elle pouvait partir. Elle pouvait sortir le samedi soir à un anniversaire. Et moi, je lui ai dit oui. Et voilà. Dimanche matin, 5h, l'hôpital me téléphone en me disant « votre fille est à l'hôpital dans le coma. » Qu'est-ce qui s'était passé ? En fin de compte, c'était à guet-apens. C'était trois gars, c'était au début de l'année scolaire, trois gars avaient demandé à cette fille de venir, qui était très jolie, une fille très intelligente, qui travaillait très bien. Et ils ont fait une tournante. Il y avait de l'alcool, il y avait du shit, et il y avait du GHB. Vous connaissez le GHB, la drogue de violeur. Hein, C'est-à-dire on perd connaissance et on n'a plus de souvenir de ce qui se passe. Et donc, ils lui ont fait boire tout ça, et il y a eu une tournante, et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Alors, voilà, ça c'est l'histoire. Après, ça, c'est, donc, on a travaillé là-dessus. Maintenant, la question que je vous pose, c'est quelle responsabilité, qui avait la responsabilité de cette jeune fille? La mère, vous avez raison, la mère. Vous, en tant que père ou mère, vous auriez posé quelle question? Qui va être là? Où tu vas? Est-ce que je peux voir les parents? Est-ce que je peux avoir le téléphone des parents? Quoi encore? À quelle heure tu reviens? C'est quoi? Hein? Je vais te déposer et je viens te chercher. Ah non, mais attendez, c'est ça. C'est ça. Et elle, parce qu'elle n'a pas voulu mettre de cadre, elle voulait être cool avec sa fille. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, mais moi, je ne vois pas ma fille ici. Maintenant, je lui mets un cadre, je suis un bourreau, quoi. Et donc, elle a fait confiance en sa fille. Sauf que sa fille, le moteur de réalité, n'était pas allumé encore à pleine puissance. Vous savez, quand vous dites à un enfant, mais qu'est-ce que tu as dans la tête pour faire un truc comme ça? Mais il lui manque un boulon. Ou il y a un boulon qui n'est pas fini de serrer, qui n'est pas serré. Et c'est à nous, parents, de prêter à nos enfants un moteur de réalité qu'ils n'ont pas encore. Comprenez bien ça. Notre responsabilité, c'est de leur prêter un moteur de réalité. Et quand vous mettez un cadre en disant que ce soir, tu reviens à 10 heures, ou bien chez qui tu vas? Je veux voir les parents, je veux voir s'il y a de l'alcool, je veux... Mais voilà, ce sont des choses. Montre-moi ce que tu as dans ton portable, dans ton cellulaire. Qui a des ados ici? Ils ont des cellulaires? Oui. Vous savez ce qu'il y a dans son cellulaire? Non. Pourquoi? Parce que vous pensez que demander ce qu'il y a dans son cellulaire, ça serait intrusif dans sa vie. Ça serait comme ouvrir ses lettres. Sauf que vous allez voir la police et ils vont vous dire, vous êtes responsable de vos enfants jusqu'à 18 ans et de ce qu'il y a dans son cellulaire. C'est là où il y a... Bon, quand vous dites à vos enfants, mais qu'est-ce que... Et effectivement, il leur manque quelque chose et ce n'est pas de la faute de l'enfant, c'est simplement que le moteur de réalité est en train de prendre la puissance. 18 ans est un âge politique, mais pas du tout responsabilité. Et vous avez, nous, on a vu ça avec nos jeunes, ils ont fait leurs études à l'université, et évidemment, ils avaient besoin de revenir, et nous, on avait besoin de replacer le cadre. Alors, le cadre, ce n'est pas le cadre quand ils avaient 10 ans ou 12 ans, c'est un autre cadre, évidemment. Mais quand même, ils avaient besoin d'un cadre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous-mêmes, nous sommes responsables de leur prêter un moteur de réalité. Ce qui fait que si vous ne savez pas, si vous pouvez imposer quelque chose à vos enfants, moi je vous dis, c'est votre responsabilité. Vous êtes... C'est criminel de ne pas le faire. Je ne suis pas en train de juger cette dame qui voulait faire plaisir à sa fille et en fin de compte, c'est devenu un cauchemar pour la fille et que ça a touché toute sa vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, ne soyez pas en souci si la relation avec vos enfants est satisfaisante pour eux et pour vous, vous pouvez poser un cadre. Et les enfants attendent cela. Et le moteur de réalité que vous allez prêter à vos enfants jusqu'au moment où ils vont pouvoir partir et voler dans l'autonomie, eh bien, évidemment, après, ils vont voler de leurs propres ailes et ils ont leur choix à faire. Ne pas le faire, refuser de poser un cadre, c'est dramatique. Est-ce que ça vous convainc, ça? Ça a du sens pour vous? Ok. Bah, écoutez, on ne sera pas allé beaucoup plus loin, mais on va s'arrêter là. Est-ce que vous aviez une question ou l'autre? On a encore 5 minutes pour pouvoir répondre à des questions. J'aurais bien voulu parler du pardon. Ce matin, j'ai effleuré le pardon. Et pourtant, c'est... Vous savez, je me rends compte que... je vois la famille comme un centre d'apprentissage. Est-ce qu'on utilise le même terme ? Et le pardon, on en a besoin toute notre vie. Réparer une relation, on en a besoin de toute notre vie. Et comment est-ce qu'on répare une relation ? Le dialogue, le pardon, la réconciliation. Si nos enfants ne prennent pas ça, ils vont, comme je vous ai dit ce matin ou tout à l'heure, notre cerveau ne supporte pas d'être dans un déséquilibre relationnel. Et apprendre à nos enfants, donner à nos enfants des outils pour savoir comment réparer une relation, c'est primordial. Le dialogue, qu'est-ce que je dis encore ? Le pardon et la réconciliation. Et le dialogue, moi je vous propose, dès que vous avez des jeunes enfants, vous puissiez faire de façon, alors je ne sais pas, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, une rencontre de famille. Ce n'est pas forcément pour lire la Bible. La Bible, vous devez ne vous appuyez pas sur l'école du dimanche pour instruire vos enfants. Ce n'est pas le rôle de l'école du dimanche d'instruire vos enfants, c'est votre rôle. D'accord ? Et donc, mettons bien les choses au clair. Mais dans cette rencontre de famille, moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez parler de la vie quotidienne. Dire comment est-ce que tu vis les choses ? Et comment est-ce qu'on vit les choses ? Ah, mais papa, toi, tu m'as donné, je ne sais pas moi, tu m'as donné, tu m'as puni parce que ça, c'était même pas moi. Et tu, ah, bon, explique-moi la situation. Et le père qui peut demander pardon à son enfant. Vous pensez que c'est possible, ça, qu'un père... Il vaut mieux, hein ? Il faut absolument. Sinon, ils vont voir le père idéal, et de toute façon, ils savent que ça n'existe pas. Il vaut mieux vivre ça. Ça leur apprend aussi à pouvoir demander pardon. Donc, ayez ces rencontres de famille. Vous pouvez faire ensuite... un jeu de société ou bien, je ne sais pas moi, quelque chose de très plaisant avec eux, des crêpes ou tout ça. Mais mais bien sûr, quelque chose qui leur plaît beaucoup, ça va être le souvenir de leur famille. Hein. À 35 ans, ils vont dire, ah, ces moments-là, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que vont dire vos enfants quand ils auront 35 ans et vont se souvenir de leur enfance ? C'est très important. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est que dans ce moment familial, tout puisse être discuté à plat. Et on vide les siphons. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Le grand problème dans nos familles, c'est qu'on n'a pas réglé les dossiers. Les dossiers ne sont pas réglés, quoi. Et donc, on accumule, et puis tout à coup, pouf ! Il y a tout qui sort. Parce qu'on n'a jamais pris le temps de se demander pardon, d'avoir du dialogue, de mettre des mots sur des souffrances, etc., etc. Et finalement, dès qu'il y a un problème, c'est comme dans un lavabo qui est plein de cheveux là, et puis ça ne coule plus, même ça regorge, quoi, ça dégorge. Hein. Et donc, je vous encourage à prendre ce temps en famille, que tous les enfants aient un temps de parole, et qu'ils aient de la sécurité là, qu'ils puissent dire, et on peut prier ensemble, prier les uns pour les autres. Moi, je pense que c'est extraordinaire. Racontez à vos enfants les délivrances de Dieu dans votre vie. Encore faut-il qu'il y en ait. Mettez votre foi en action. Mettez votre foi en action. Vos enfants ne vont plus se contenter juste d'une bonne parole. Ils veulent voir si le Seigneur Jésus-Christ est vivant ou pas. Ça nous met... ça demande ça. Et ils sont en train de nous regarder. Ils vont plus se contenter de bonnes paroles, quoi. Voilà. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Ça va ? Je ne vous ai pas accablé, non ? Vous avez une mission. Sachez que vous avez la capacité, en tant que parent, d'élever vos enfants. Sortez de sentiments de solitude, peut-être des fois des sentiments de culpabilité, de honte, de ne pas faire les choses comme on devrait les faire, d'être des mauvais parents. Non, non. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. C'est peut-être un peu sorti du contexte, mais c'est quand même valeur. La valeur, c'est que vous n'êtes pas parents tout seul. Seigneur, toi et moi, on fait quoi là? Et vous allez voir que vos oreilles internes, vos sens spirituels vont être aiguisés pour discerner la volonté de Dieu dans la minute. C'est une vie, c'est pas juste une décision, c'est une vie. Et on acquiert de l'expérience. Mais réjouissez-vous, le Seigneur vous a donné cette mission, vous n'êtes pas seul pour la vivre. Vous êtes d'abord en couple, et puis avec lui. Voilà. Il est 3h30, Will, tu vois, je ne suis pas un Français ordinaire. Hein. Reconnais ça au moins. Je termine à l'heure. Voilà. Merci bien. Ah, je t'en prie, avec une grande joie.